Hey, salut, bon lundi, 10h01. Ouais, bienvenue dans l'heure CV. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un... que vous avez passé un beau week-end, on va prendre le temps de le dire. Dehors, c'est moins 4 degrés avec du soleil. Soleil, nuage, un peu, mais vraiment pas beaucoup. C'est tellement beau. Un peu frais, par contre. Le manteau d'hiver, là, on ne le serre pas tout de suite. On part encore avec quelque chose qui nous réchauffe. Un degré, ce serait le maximum aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, moins 3. On reviendra avec la météo. Salut! J'espère que vous avez eu un week-end à la hauteur des gens que vous êtes. J'espère que vous êtes promené un peu. C'était beau, il neigeait, c'était le fun. Belle fin de semaine pour clôturer l'hiver, disons-le comme ça, avec les enfants peut-être. Je sais aussi qu'il y avait beaucoup de montagnes de ski qui faisaient des petits parties d'hiver là, pour fermer la saison. En avez-vous profité? J'espère que oui. Twitch, twitch.tv/ BLVD, barre en bas, FM, c'est quoi ça? Des caméras en studio. Je vous dis salut en ce moment. Merci beaucoup d'être bien branchés. Notre gang habituelle est là, puis on aimerait ça vous amener à en faire partie. Aujourd'hui aussi, au 418-971-1021, on va pouvoir communiquer ensemble par texto. Et je vais prendre le temps, dans cette nouvelle ère, nouvelle décennie, qui est la trentaine, de vous remercier tous et chacun. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont pris la peine en fin de semaine de me contacter et je vais faire la revue de mes réseaux sociaux un peu plus tard aujourd'hui ou encore demain là, pour prendre le temps de vous répondre individuellement. J'ai pensé à vous, programmation de Boulevard 101, du rock et autres. J'ai pensé à vous en fin de semaine parce que je me suis dit, OK, pour cette première journée dans la trentaine, je vais donner le ton. Vous savez un peu comment je suis. Je vais donner le ton à cette trentaine-là, puis je me mettais à mijoter là, plein de phrases. J'ai dit, qu'est-ce que ça va être quoi la première chose que je vais dire dans cette nouvelle décennie-là? C'est quoi la première phrase qui va sortir de ma bouche? Bon, ben pas celle quand j'étais en train de festoyer passé minuit, mais vraiment celle après ma première nuit de sommeil. Puis c'était sous les airs de ceci que ça m'est venu en tête, et voilà pourquoi j'ai pensé à vous. La seule chose que je me suis dite, c'est rock'n'roll. OK, rock'n'roll. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Voilà pourquoi j'ai une pensée pour vous. Je vous souhaite que cette année soit merveilleuse. En aventure, en rêve réalisé, en rencontre, en... même les éléments plus difficiles. Rock'n'roll. C'est mon souhait le plus cher pour vous, pour vrai. Mais je pense que ça dit beaucoup de choses en même temps. Puis je vous donne peut-être la petite mission humaine d'écrire aux gens que vous aimez et qui ont été importants pour vous dans la dernière année, au courant de la prochaine semaine. Vraiment de le souligner, puis peut-être qu'entre vous, vous allez recevoir des lettres finalement en tant qu'auditeur, là, mais de prendre le temps de le faire. Ça fait une belle différence, ça fait vraiment du bien personnellement, mais ça fait aussi du bien à nos proches, puis on n'arrête pas assez le temps pour faire ce genre de choses-là. Le proverbe d'aujourd'hui pour commencer cette semaine-là, c'est « Pluie du matin, n'arrête pas le pèlerin ». Je l'adore, proverbe français. Alors, ça va un peu avec le rock'n'roll. Aujourd'hui à l'émission, Frédéric Bérard sera là. On est lundi, chroniqueur habituel. On va aller parler de Trump et de Gaza un peu. Il se passe beaucoup de choses à l'international et notre ami avocat Frédéric en a des choses à dire. Et aussi, Sylvain Dancause est de retour parce qu'en éducation, ça brasse. En éducation, il y a beaucoup de choses à mentionner, entre autres maternelle 4 ans, ça prend l'eau, ça prend presque le bord, il va en jaser. Est-ce que vous, ça avait fait une différence avec votre enfant? Je me souviens qu'on en avait jasé un peu ensemble, puis par texto 88-971-1021, vous aviez dit que pour certains enfants, ça a été vraiment bénéfique. Donc, j'aimerais savoir vos commentaires avant qu'on aille lui parler. Et il y a aussi bien des choses avec Bernard Drainville à aller explorer parce que la semaine dernière, ça a été des sujets après sujets, mais ils ont passé un peu dans le beurre, entre autres la création d'un ordre professionnel d'enseignants. Bien, Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, il dit que c'est pas dans les cartons. Puis pour Sylvain Dancause, enseignant au secondaire, dit « surprise ». On va aller jaser tout ça, mais pour l'instant, c'est le début de la semaine. On prend notre café ensemble. Gab Bouchard est là avec Remède. Peut-être un petit... tout le monde écrit « rock'n'roll » par texto. Je lisais ça en même temps que de vous présenter Gab Bouchard et Remède. À Boulevard 101, mes collègues sont en feu. Mes collègues sont de bonne humeur aussi. Il y a vraiment une belle fébrilité aujourd'hui, en ce lundi. Si vous avez aimé le show de Rage Against le matin, bien, soyez là demain, parce qu'il y a quelque chose de... très important qui va se passer dans l'heure de 7 à 8. Puis je vais vous donner un indice plus tard à l'émission. Ça, c'est notre paperasse. Notre administration de l'heure CV vient d'être faite. On y va avec le petit café à couler et Gab Bouchard.
It's time! Le Sans CV avec Pascal CV.
De retour à l'émission, je vous parlais un peu de météo. Bon, là, les textos commencent à entrer par rapport à ma voix. Elle est un peu enrouillée pour plein de raisons. Oui, je pourrais faire des spectacles de rocker. Aujourd'hui, si jamais quelqu'un, un artiste ou une artiste qui ne peut pas le faire, vous pouvez me contacter. Je pense que ça va aller, je vais pouvoir vous remplacer. Mais tout devrait revenir à la normale. Moins 4 degrés, c'est ce qu'on a à l'extérieur. Comme je vous disais, le maximum est à 1 degré, c'est du soleil aujourd'hui. Demain, une autre belle journée, mais alternant soleil-nuages. Un peu plus de nuages quand même dans la grande région de Québec, avec 4 degrés comme maximum. Ça commence à se réchauffer, honnêtement, là, au courant des prochains jours. Même mercredi, jeudi, on aura du 8. On va toucher au printemps, mais qui dit printemps dit aussi de la pluie. Et c'est le scénario pour mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi. Ça va continuer au courant de la journée de mercredi. Donc, il faut profiter de ces deux belles journées de soleil qu'on a actuellement sur Québec. On a notre invité qui vient d'arriver, qui vient de se placer. Je vais ouvrir ceci pour pouvoir aller le rejoindre parce que, bien sûr, Frédéric Bérard, c'est notre invité du lundi. Salut Frédéric, m'entends-tu?
Salut Pascal, je t'entends à merveille.
Ah super, ok, parfait, parce que là, j'avais un petit problème avec ma console. Frédéric Bérard, tu es avocat, chroniqueur et tu es certainement quelqu'un qui a beaucoup d'opinions. Et justement, c'est pour ça qu'on fait affaire avec toi le lundi matin dans l'heure CV. T'as l'air en forme, il fait beau de ton côté à Montréal, t'as le soleil dans un bain de soleil complet.
En fait, c'est du chalet directement, du fin fond de la Nodière, perdu dans les bois, sur le bord de mon petit lac. Effectivement, j'ai le soleil en plein front. J'ai pas pensé mettre ni casquette ni
crème solaire.
Alors, heureusement, personne ne me voit à part toi.
Hey, tu viens de publier un nouveau livre, on va en parler dans quelques minutes, mais il faut vraiment faire un tour à l'international. Je sais que tu surveilles de près tout ce qui est élections américaines et tu surveilles aussi tout ce qui est conflit. Parce que bon, tu as voyagé beaucoup, tu as été sur des terres, tu as parlé à des gens et tout ce qui se passe à Gaza a aussi attiré ton attention. Mais commençons avec la saga de Trump qui continue et ce matin, c'est partout dans les médias. On s'est même demandé si la Trump Tower sera saisie pour payer une caution. Ça a été le gros sujet en fin de semaine. Bon, revenons à la base. Vous savez qu'il y a des déboires judiciaires pour Donald Trump. Maintenant, son fils est là-dedans aussi. Vous savez aussi qu'on est en train d'essayer de continuer de fermer des dossiers parce qu'il y en a plusieurs en justice pour Donald Trump. Mais il y en a un en fin de semaine qui a fait énormément jaser. Et toi, ce que tu en retiens, c'est fort probablement l'absurdité du fait qu'il va pouvoir se présenter aux prochaines élections. Mais à part ça, Frédéric Bérard?
Juste à part ça, une petite parenthèse qui vaut la peine. Allez voir le Twitter de Joe Biden, si vous avez la chance, qui a publié que Trump hier... écoute, c'est phénoménal, là. Il dit, hier, j'étais au parcours de golf Trump, machin. J'ai participé au Trump Awards et j'ai remporté le prix du meilleur golfeur et du meilleur golfeur senior. Tout ça parmi une liste de super bons golfeurs. Je suis beau, je suis bon, je suis fin.
Ah, c'est ça, ben, c'est Joe Biden, là.
Non, mais c'est Trump qui publie ça de lui-même. Il a gagné... Il a gagné 2 trophées aux Trump Awards sur son parcours de golf.
C'est tellement Biden, bon.
Et Biden l'a retweeté. « Hey, bravo Donald, tout un accomplissement. »
Sur ta propre terre, ton propre terrain, avec tes propres employés, ta propre coupe.
On dirait un enfant de 4 ans dans la cour d'école. Écoute, c'est phénoménal, mais que le président des États-Unis, le drôle, l'ancien président des États-Unis, ça, je me souviens pas d'avoir vu quelque chose comme ça, mais...
J'avais complètement manqué ça, là, parce que j'étais beaucoup plus penchée sur le fait que bon, l'ancien président américain attend 2 décisions de justice importantes ce matin. Ça va être déterminant, ça, pour son éventuel retour à la Maison-Blanche.
Oui, puis écoute, c'est parce que le 450 millions, un, c'est de l'argent, mais ce qui est encore plus embêtant, je te dirais, pour Trump, c'est qu'il a toujours eu l'image de l'ultra-milliardaire qui a ultra bien réussi. Puis il dit « Ah, je l'ai le 500 millions en liquidité, je veux m'en servir pour la course à la présidence, puis c'est pour ça qu'ils veulent me le saisir pour m'empêcher de m'en servir, blabla. » Mais s'il arrivait quoi que ce soit à Trump à ce niveau-là, ça envoie le message très fort. Je pense que ben finalement, il a peut-être pas si bien réussi que ça, puis peut-être qu'il nous compte des pipeaux depuis un petit bout de temps. Or, la réalité, c'est que là, on est en train de regarder est-ce qu'on peut saisir les immeubles de Trump au-delà des liquidités? Ça devient compliqué parce qu'il y en a plusieurs, de ce que j'ai compris, qui sont hypothéqués jusqu'aux oreilles, auquel cas ils n'ont pas nécessairement de valeur d'un point de vue équité. Puis l'autre affaire, c'est le Trump Tower, c'est bien le fun, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable d'acheter ça en 5 minutes non plus. Donc, tu as une espèce d'imbroglio qui, à mon avis, et c'est ça qui est assez fantastique, qui n'est même pas le pire quand tu y penses. Parce que là, on parle simplement d'une condamnation au civil pour avoir gonflé des actifs, hein, pour faire une espèce de fraude fiscale qui est un crime relativement rare, en d'autres termes. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est les autres affaires. C'est l'émeute au Capitole, c'est essayer d'avoir trafiqué le vote en Géorgie, c'est d'être parti avec des documents secrets de la Maison-Blanche. Tout ça faisant appel à des procès criminels qui devraient avoir lieu, et ça, Trump est chanceux, après l'élection de 2024. Je te dirais que son pronostic à cet effet-là, ou plutôt son souhait, c'est de dire, ben justement, si ça a lieu après, parce qu'il fait tout pour les retarder, et je suis élu, je vais m'auto-gracier, et merci, bonsoir. Auquel cas, la justice américaine en prendrait plein la gueule.
Ouais, là, tu parles de cette décision-là. Parlant de retard, ben aujourd'hui, il va revenir là, en audience. Il a été convoqué à New York. On veut fixer justement une nouvelle date. Ça, c'est pour le procès pénal dans l'affaire de Stormy Daniels, là. Bon, rappelez-vous, l'actrice pornographique que Donald Trump est soupçonnée d'avoir payé de façon illicite, là, en maquillant des comptes de la Trump Organisation, je veux dire en français, pour qu'elle taise cette relation d'adultère-là, là, qui aurait eu lieu par le passé. Puis effectivement, là, quand on parle de repousser tout ça, on veut au moins reporter d'un mois ce procès-là historique par un caractère qui est assez inédit. Puis il y a aussi, Frédéric, puis j'aimerais ça qu'on le mette un petit peu en lumière, cette problématique-là. Se passer vite sur les fraudes et autres, mais la question demeure toujours, est-ce qu'il va se gracier s'il arrive au pouvoir? Est-ce que vraiment on pourrait voir ça en plus du peut-être président américain Donald Trump?
J'invite les gens à aller lire les révélations à cet effet-là du Washington Post puis du New York Times, qui sont parmi les deux, sont parmi les médias les plus prestigieux au monde, hein, je pense, d'un point de vue presse écrite, à tout le moins. Et les deux ont révélé les plans. Si Trump arrivait au pouvoir, qu'est-ce qui arriverait? L'idée de l'auto-graciement est très clairement dans les cartons, tout comme l'idée de lancer des accusations criminelles contre Biden, même si non fondées. Moi, ce gars-là, ça fait longtemps que je le dis, là, il a les caractéristiques propres d'un fasciste, essentiellement. Faut arrêter d'avoir peur des mots. Lui-même a dit, ah ben, je suis pas un vrai dictateur, blablabla, mais il a quand même cité Hitler à 6 reprises en décembre et janvier. Je pense pas que ce soit un accident. Et encore là, il y a 3 4 jours, il est allé dire que Kim Jong-un, le big boss de la Corée du Nord, qui est pas nécessairement un modèle, il dit, moi, je l'admire parce que quand il parle, son peuple écoute. Puis j'aimerais bien, moi, que les Américains m'écoutent comme les Coréens du Nord écoutent Kim Jong. Donc, tout ça pour dire que c'est très, très chargé, c'est très, très lourd. Et on sort, Pascal, du cadre de ce qui a toujours été convenu. Je sais qu'il y en a plusieurs qui disent, ben voyons donc, 2016-2020, c'était pas si pire que ça, il a pas fait grand-chose de grave. Ceux qui disent des trucs comme Bérard, ben vous êtes des alarmistes, vous exagérez et tout. Moi, pour ça que je vous réfère non pas à ce que je viens de vous dire, mais plutôt au Washington Post, au New York Times, qui ont interviewé des anciens collègues, des anciens staffers, des anciens conseillers de Trump. Ils disent que le plus grand regret de Trump, c'est de ne pas avoir contrôlé davantage le pouvoir en 2016 et 2020. Il ne fera pas cette erreur
Deux
deux
fois.
fois. Par exemple, avec le général des armées, là, il va nommer un de ses chums, il veut avoir le contrôle sur le nucléaire et autres. Donc, bref, tous des trucs très, 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 je te dirais, alarmants, mais aussi basés sur des témoignages qui, je crois, ne peuvent pas vraiment être plus crédibles.
Mais l'autre affaire, j'ai vraiment l'impression, tu sais, côté politique aux États-Unis, puis on va terminer là-dessus pour ce sujet-là, mais ils sont vraiment pas gâté en ce moment. T'sais, Joe Biden n'est pas non plus la solution pour sauver les États-Unis, vu son état de santé, sa lucidité, bon, qui est peut-être à discuter. Puis il y a beaucoup de démocrates qui disent qu'ils vont même pas aller voter aux prochaines élections parce que pour eux, Joe Biden n'est pas leur candidat, mais ils veulent pas non plus voter pour Donald Trump. Il s'est passé quelque chose aux États-Unis qui est dur à comprendre, puis qu'on va pouvoir évaluer à travers les prochaines années. Mais bon, je pense encore que ça découle de ce crash financier-là qu'on a vécu là, il y a plusieurs années aux États-Unis, où les gens ont tellement perdu, ont perdu leur maison, ont fait confiance au gouvernement, ont fait confiance aux banques. Puis finalement, il y a eu un certain abus de pouvoir là-dedans. Puis les citoyens, comme nous, de tous les jours, ont tellement perdu que c'est traumatique, là, c'est encore en eux. Puis pour eux, l'économie reste, bon, le principal. On voit dans tous les contextes géopolitiques, avec les conflits à l'international, la complexité d'avoir un leader qui est fort. Est-ce que pour moi, un leader, c'est Donald Trump? Je l'ai dit assez souvent en ondes pour dire, pour moi, un leader, c'est des gens qui rallient dans le positif et non dans le négatif. Et à partir du Capitole, je veux dire, on est capable de dire que non. Oui, OK, il y a une équipe pour l'entourer côté gestion, côté économique, qui est beaucoup plus forte que peut-être les démocrates. Mais les Américains vont toujours se rallier à ça, je pense, par le traumatisme vécu du gros crash économique là, de 2008. Mais ça fait pitié, puis j'espère vraiment que ce ne sera pas la même chose pour nous au Canada dans quelques années, parce que souvent, on voit des choses qui se ressemblent, ouais, parce qu'on s'assemble entre les deux pays. Mais il y a cette pauvreté politique exceptionnelle aux États-Unis, comme rarement on a vu, là, sinon comme on n'a jamais vu.
Oui, bien, écoute, tu as raison, c'est vrai que Joe Biden n'est vraiment pas inspirant, mais... Puis je suis loin d'être un fan, mais c'est parce que regarde tout ce qui se passe à l'international. Il y a des trucs qui ont coulé. L'OTAN, tous les pays de l'OTAN sont très, très, très inquiets de l'arrivée potentielle de Trump, parce que Trump a invité la Russie de Poutine à attaquer les pays de l'OTAN qui ne paieraient pas leurs 2%. Alors là, ils se disent, l'OTAN sans les États-Unis, est-ce que ça va encore exister? Et là, ils sont en train de penser à un plan de contingence. Et où je vais être d'accord avec toi, puis je pense que tu as raison de le dire, puis moi, je l'ai souvent dit, moi, c'est pas Trump qui me fait peur, c'est le livre de recettes de Trump. Ouais. Si Trump, demain matin, ne se présentait plus, peu importe la raison, il y a une faction ultra importante, voire une majorité d'électeurs électrices américaines qui seraient prêts à voter pour un Trump numéro 2, un 2.0 ou autre. Et c'est ce sentiment-là de revanche, tu l'as dit, la crise économique, tu as raison, il y a aussi les médias sociaux, la pandémie qui n'a pas aidé, pour ne pas dire qu'il n'a vraiment pas aidé. Donc, on a créé un mouvement de masse qui est très, très, très vindicatif. Et l'autre affaire, puis tu as raison de le dire aussi, il y a combien de démocrates qui refuseront d'aller voter en disant « c'est pas vrai que Biden m'inspire suffisamment » et vont laisser dans de ce fait-là, en quelque sorte, le pouvoir à Trump. Bref, tout ça pour dire que c'est un joyeux bordel, cette affaire-là. J'ai de la difficulté à voir comment ça va se régler positivement, sachant que toute la géopolitique internationale est en cause aussi sur le plan de l'OTAN. Mmh. Jamais un président américain ou un candidat n'aurait invité la Russie à attaquer l'OTAN. Je dis complètement absurde.
Parlant justement du contexte géopolitique à l'international, Gaza fait jaser ce matin. Il y a au moins 3 000 des 45 000 bombes israéliennes qui ont été lancées sur la bande de Gaza. On n'en parle plus depuis plusieurs semaines et pourtant, ça reste très important. Et là, on estime là, avoir relayé au moins bon, des milliers de blessés. Là, mais parmi les 45 000 bombes, 3 000, comme je vous ai dit, ont explosé. Puis c'est ça qui est complexe parce que maintenant, il n'y a plus l'aide qu'on avait du côté de la bande de Gaza. Il n'y a plus l'aide qu'on avait aussi du côté d'Israël. Mais c'est une guerre qui, tous les jours, continue. Et on veut un cessez-le-feu. Est-ce que le cessez-le-feu, cette fois-ci, va être bénéfique ou encore une fois, ça va permettre de réarmer les groupes qui s'affrontent? T'sais, c'est tellement des questions difficiles, mais on est en train de littéralement, je vais le dire, là, en bon québécois, scraper tout ce qui a existé dans cet endroit-là. Mais au moins 1160 morts en ce moment, essentiellement des civils en plus. Là.
Écoute, je pense que sur le plan palestinien, on parle de 32 000 morts, si je ne fais pas erreur. Peut-être 10 000 enfants, ni plus ni moins. Moi, c'est quelque chose qui vient me chercher, évidemment.
Depuis le début de la guerre, oui.
Oui, depuis le début, oui. Écoute, quoi dire sinon que... Pour un cessez-le-feu, ça prend l'appui des grandes puissances. Or, la Russie l'a refusé, hein, on l'a vu. L'aide humanitaire ne traverse pas, ne se rend pas du côté palestinien. Et la justice internationale a très bien déterminé qu'il s'agissait ici d'un génocide. Là. C'est ça la vérité. Là. Il y a un génocide du peuple palestinien. Puis là, je sais que plusieurs répondent, oui, mais le 7 octobre. Évidemment, le 7 octobre, on en a parlé ensemble. C'est épouvantable. Ce qu'a fait le Hamas, c'est invraisemblable, c'est dégueulasse, ça n'a juste aucun sens. Et je comprends très bien les Israéliens qui ont vécu le 7 octobre d'être animés par un sentiment de vengeance. Sauf que là, reste encore une fois toute la question du qu'est-ce qui est proportionné, qu'est-ce qui est proportionnel comme attaque. Moi, ce qui me rassure, Pascal, c'est quand je vois des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers de Juifs dans les rues de Tel Aviv pour manifester contre le gouvernement de Netanyahou, pour dire, là, ça suffit, ce sont des civils qui passent au cash. Hein, parce qu'il y a toujours l'accusation classique, a été faite encore récemment, où on dit, ben, si vous critiquez Israël, si vous critiquez le gouvernement de Netanyahou, vous êtes antisémite. Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans des espèces d'accusations du genre, on peut très bien critiquer un gouvernement sans être antisémite ou sans être quoi que ce soit. Or, ici, on est allé attaquer même l'ONU en disant, l'ONU est antisémite, l'ONU déteste les Juifs, ce qui est complètement absurde. Donc, voici, il va falloir trouver une espèce de, comment je te dirais, de porte. De sortie entre les deux, parce que là, actuellement, on est en train d'assister à un génocide. Le Canada refuse maintenant d'envoyer des armes en Israël, ce qui était la bonne décision à prendre. Et là, j'espère que le reste de la communauté internationale va se réveiller aussi. Là, ce qui commence tranquillement à être le cas, je pense, c'est de voir ces Juifs-là dans les rues de Tel Aviv manifester contre Netanyahou. Je pense que c'est la meilleure des façons.
Ça en dit beaucoup. Je termine, Frédéric Bérard, avec la parution de ton nouveau livre. Si vous aimez Frédéric pour ses chroniques, si vous, vous êtes toujours en confrontation, sinon avec Frédéric aussi, il va faire réagir encore une fois dans ce livre-là, qui s'appelle « On nous tuera doucement ». On lit chronique sur nos dérives médiatiques, politiques et environnementales. C'est maintenant en vente partout, chez tout bon libraire, pardon. Frédéric, c'est quoi ce livre-là?
Ben, écoute, moi, j'ai plusieurs défauts, beaucoup de défauts, mais je n'ai pas celui d'être menteur. Alors, ça fait en sorte que je dis ce que je pense. Et l'autre défaut que j'ai peut-être, c'est que je dis toujours la même affaire. Je ne suis pas très innovateur. Et ce livre-là est un peu, comment je te dirais, ben, pas un peu, est à 100% la résultante des chroniques qu'on peut faire ensemble, des chroniques ailleurs. Parce que c'est-à-dire qu'à mon avis, les démocraties occidentales sont sous attaque actuellement, du fait du populisme et parfois même du fait de l'extrême droite. Tout est en train de sacrer le camp, disons-le franchement. Mais ça se fait doucement. Hein? Et de là, l'idée du titre du bouquin, il y en a qui disent, ah oui, mais c'est une chanson des Fugees. Je connais pas trop les Fugees. C'est un peu hasard. Ça vient de ma tête. J'ai rien calqué des Fugees ou autre. L'autre formule qui aurait pu être employée pour le bouquin, c'est la formule de la grenouille qui est dans l'eau chaude. Au
Ouais.
début, elle trouve ça formidable. Enfin, de l'eau chaude, c'est bien. Puis à un moment donné, ben, assez bouillante, puis elle finit par mourir. Moi, à mon sens, on en est là actuellement. Pas au Québec, évidemment, pas au Canada. C'est quand même, ce sont deux régimes qui vont plutôt bien quand on se compare à l'échelle internationale. Mais il y a une tendance de fond très, très, très forte. Quand tu regardes les pays d'Europe, là, il y en a une partie d'entre eux, quand même pas mal, même en fait, 7-8 actuellement, qui ont sombré vers l'extrême droite. Il y a des élections en 2024 qui devraient accentuer cette tendance-là. Et je pense malheureusement que tout ceci va mal se terminer, sans compter toutes les questions reliées au réchauffement climatique. L'ONU nous dit qu'il y aura 220 millions, c'est beaucoup là, ça c'est 7, 6 fois, 6, 7 fois le Canada, 220 millions de, en fait 6 fois, 220 millions de réfugiés climatiques qui, d'ici 2050, vont être à la recherche d'un refuge.
Ouais.
Et de voir toutes les politiques anti-immigrationnistes actuellement qui sont en train de se mettre en place, les trucs de déportation et autres. Je te dirais qu'on est devant un défi assez majeur.
Ah,
Merci.
c'est colossal. Je vous invite à aller vous procurer son livre. On nous tuera doucement. Je l'ai reçu par la poste. Merci beaucoup, Frédéric. Je vais m'y plonger, puis on en reparlera assurément. Ça semble bien se lire, là. Il y a quelques pages. Puis si vous aimez justement sa participation, ben c'est un peu l'extension de ce qu'on fait le lundi matin ensemble. Salut, mon ami. À la semaine prochaine.
Bien gentil. Merci à tout le monde. À bientôt.
Bye-bye. Frédéric Bérard, avocat chroniqueur, vous pouvez le suivre sur ses différentes plateformes. C'est un gars qui parcourt le monde puis qui a toujours quelque chose à dire puis qui vous fait toujours réagir. 88-971-1021 pour passer vos commentaires. On fait une courte pause et de l'autre côté, on rejoint Sylvain Dancause, professeur du côté de la Courvilloise.
Il se passe quelque chose.
Ça fait longtemps qu'on lui a pas parlé, vraiment. En fait, on y parlait régulièrement quand c'était Solidarité, la grève un peu partout, la grève avec les fonctionnaires contre le gouvernement de la CAQ. Finalement, certains points étaient gagnés, d'autres pas du tout. Et il y avait la broue dans le toupette pour justement cette relance en éducation. Il s'est concentré 100% sur ses élèves, puis on le remercie d'avoir fait ça finalement. Mais il nous a manqué à l'émission à leur CV. Sylvain Dancause, enseignant au secondaire en mathématiques. Salut!
Bonjour Pascal.
On voyait même plus, on voyait même plus tes chroniques dans le journal de Québec, là. Tranquillement, ça va recommencer, mais tu étais dans le jus, Sylvain.
Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, pour faire un clin d'œil à ton introduction, là, it's been a long time, comme dirait Robert Plant. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, ben, le mois de février, tu sais, bon, il y avait le retour là, en janvier, le plan de rattrapage. Bon, les bulletins viennent de sortir. Fait que Non, mais à un moment donné, ma job, c'est prof au secondaire, tu sais. Puis au travers de ça, j'ai trois ados. Fait que sur ma voiture, il y a une grosse pancarte marquée taxi. Fait que, tu sais, à travers le taxi, puis l'école, ben, de temps en temps, tu sais, j'écris au journal. Normalement, je devrais avoir une chronique hebdomadaire, mais là, c'est ce que j'avais dit à mon boss au journal. Là, j'avais dit, là, ça, j'arrive pas. Fait que, on va publier quand ça va donner. Donc, j'étais plus tranquille depuis quelques semaines.
Et c'est bien correct. La seule chose, c'est que ça commence à revenir dans l'actualité pas mal. L'éducation, c'est comme si on a laissé les scandales politiques pour en mettre d'autres, quoique celui de l'éducation est quand même interrelié avec la politique aussi. Mais il y a eu une demande particulière de certains professionnels là, en enseignement, et c'est de créer un ordre justement professionnel comme ont les enseignants en Ontario. C'est des enseignants québécois qui ont levé la main pour dire « Nous, on trouve que ce serait une super idée. » En campagne électorale, la CAQ avait proposé la création de cet ordre professionnel-là pour les enseignants. Puis après ça, il n'y avait pas eu de suite. Donc, on n'avait pas idée si on allait revenir avec ça. On est tombé en négociation. On est tombé en grève. Donc, c'est sûr que ce n'était pas sur la table à ce moment-là. Je crois, du moins, pas faire briller cette idée au moment critique où il y a des grosses négociations entre syndicats et le gouvernement. Mais on est que la création de cet ordre professionnel-là, c'était, une façon de mieux encadrer le travail enseignant, de mieux protéger les élèves, d'assurer la qualité de l'enseignement qui est donné dans les classes. Es-tu du même avis, toi? Est-ce que tu es du côté des enseignants qui veulent cet ordre professionnel-là au quotidien?
Ben, il faut que je sois du même avis qu'eux parce que j'ai co-signé la lettre qui est sortie ce matin.
Oui.
En fait, un peu partout, là. Fait que pour les gens qui nous écoutent, là, que vous soyez un lecteur du journal, un lecteur de la presse, un lecteur du Devoir, il y a une lettre qui est sortie. La personne qui a lancé le mouvement s'appelle Simon Landry. C'est un enseignant là, de la région de Montréal. Puis il a invité là, quelques personnes, quelques enseignantes, enseignants à co-signer sa lettre. Fait que j'ai co-signé cette lettre-là qui apparaît aujourd'hui. Il y a le lancement aussi d'un site web qui est parallèle à ça, donc un site web qui explique aux citoyens qu'est-ce qu'un ordre professionnel pour les enseignantes et les enseignants, et il s'adresse aussi aux profs du Québec. Donc, il y a beaucoup d'informations, autant pour monsieur, madame, tout le monde que pour les enseignantes, enseignants. Il y a une section mythes et réalités, questions-réponses, puis il y a aussi une pétition à signer là, si vous êtes en faveur d'un ordre, que vous soyez un citoyen ou un enseignant, une enseignante. Fait que oui, moi, je trouve que le timing est bon. Il y a plusieurs éléments là-dedans.
Oui, parce que je ne suis pas sûre que les gens comprennent qu'est-ce que vous réclamez. Qu'est-ce qu'un ordre professionnel pour les enseignants? Là? Parce qu'ils vont pouvoir aller voir le site web, mais admettons que tu nous le résumes.
Ben, en fait, tu l'as bien résumé toi-même. Là. Un ordre, c'est là pour protéger le public, un, mais c'est aussi là pour protéger la profession. Parce que, là, on pourrait argumenter et dire il y a déjà un protecteur de l'élève, c'est protéger le public, c'est-tu vraiment nécessaire? Admettons qu'on est d'accord avec cet argumentaire-là, je poursuivrai la discussion en disant ouais, mais protéger la profession, parce que ce qu'on assiste depuis quelques années, c'est un peu une déréglementation de la profession. Les exigences sont de plus en plus basses pour être enseignant. Puis tu sais, aussitôt que tu franchis le cadre de porte dans une école, tu t'appelles un enseignant. Fait que c'est un peu un non-sens, là. Fait que je pense qu'au niveau de la protection du public, au niveau de la protection de notre profession, de la protection du titre enseignante-enseignant, je pense qu'il y a de l'ouvrage à faire. Tu sais, personnellement, j'étais pas trop en faveur d'un ordre d'aller jusqu'à assez récemment, là, jusqu'en 2021-22. Puis là, je vois ce qui se passe depuis quelques années. On raccourcit les formats. Tu sais, le contexte est toujours le même. T'sais, c'est toujours le prétexte, c'est la pénurie. Puis c'est comme si ça justifiait à peu près n'importe quoi. Puis on perpétue la légende que, si tu as eu des enfants ou si tu aimes les enfants, tu vas faire un bon prof. Il n'y a pas une profession qui accepterait ça.
J'adore les enfants.
Ouais,
mais je ne serai jamais prof au primaire. Ça, je le sais. M'ont répété à un enfant, enlève ton doigt de ton nez, à travers de l'enseignement à tous et chacun, je pourrais pas. Secondaire peut-être, mais c'est bon ce que tu dis, c'est bon ce que tu exploites. Tu as bien beau aimer les enfants, aimer le fait qu'ils se développent très bien dans la société et autres, gérer une classe avec des besoins totalement différents, avec des histoires totalement différentes, avec justement fort probablement des plans d'intervention pour beaucoup d'entre eux, c'est une autre game totalement. Puis je t'ai coupé parce qu'il y a un point que tu as survolé rapidement, mais dans la vie des parents aussi, dans la vie des élèves, vous réclamez cet ordre professionnel-là parce qu'il y en a qui ont qui ont abusé, en fait, de leur statut et voulaient une impunité aussi pour certains de vos collègues quand des enseignants dépassent les bornes, qu'il y a de la violence verbale de la part d'enseignants à l'endroit d'élèves. Vous voulez plus ça, vous voulez sortir les pommes pourrites du réseau aussi avec cet ordre-là.
Bien, c'est un ensemble de choses, tu sais, Pascal. Il y a tout ce qui est formation initiale. Fait que présentement, on assiste à une déréglementation, puis on justifie ça par le fait qu'il y a une pénurie. Donc, tu sais, on coupe au niveau de la formation initiale. Puis là, ben, à peu près n'importe qui peut s'appeler un enseignant. Fait qu'il y a une protection au niveau de ça. Puis pour les parents aussi, savoir, ben, qui enseigne à mon enfant, quel est son titre. Tu as juste à penser aux ingénieurs, tu sais, un statut de junior. Ben, ça dit pas qu'il est pas bon, l'ingénieur. Ça dit juste qu'il commence, tu sais. Fait que c'est un peu le principe de protection du titre. Puis comme tu dis, ben je veux pas non plus lancer la pierre aux non légalement qualifiés parce qu'on a besoin de ces gens-là, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils soient formés, qu'ils soient bien encadrés. Puis parallèlement à ça, puis tu l'as dit, il y a aussi ce que j'appellerais les légalement non compétents. T'sais, fait que il y a un peu tout ça qu'il faut gérer, puis au travers de la
les
vie...
Les légalement d'un non compétents.
Ben,
c'est excellent.
Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a un peu tout ça, puis tu sais, une fois que tu as fini ta formation initiale, ben, tu vas travailler à peu près 30-35 ans comme enseignant-enseignante, donc il faut que tu te formes. Puis c'est aussi de favoriser la formation, d'avoir un suivi sur une formation qui est efficace et qui est nécessaire. Puis là, la tendance actuelle avec Bernard Drainville et son projet de loi 23, c'est que le ministre de l'Éducation s'approprie le droit de vie ou de mort sur les programmes universitaires. Donc, c'est lui qui décide, OK, ce programme-là, il est correct, je l'accepte, celui-là, il est pas correct, je l'accepte pas. Fait que tu vas comprendre que dans un contexte de pénurie, comme ministre de l'Éducation, il a tendance à accepter à peu près n'importe quel programme. Oui. Puis même affaire pour la formation continue, tu sais, c'est lui qui peut décider de la formation continue, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Puis là, je dis Bernard Drainville, peu importe le ministre de l'Éducation, peu importe le parti, je m'en fous, là. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour notre système d'éducation? Je ne crois pas. Fait qu'il y a un peu de, tu sais, sans faire de mauvais jeu de mots, il y a un peu d'ordre à mettre dans la cabane.
Puis là, ça a été refusé, du moins pour l'instant, par le ministre de l'Éducation. Il a parlé dans les médias, il a réitéré que la création d'un autre professionnel pour les enseignants, c'était pas du tout dans les cartons. C'est sûr qu'avec ce que tu viens de nous exposer, on peut peut-être comprendre, mais toi, tu dis que c'est intéressant.
Bien, je trouve ça intéressant qu'ils disent que c'est pas dans les cartons, parce que tu vois, en 2016, avant que la CAQ arrive au pouvoir, quand il y avait eu, bon, le conseil avec les membres puis tout ça, ça avait été écrit noir sur blanc, là.
En campagne électorale, on proposait cette création-là d'ordre. Là, tu dis c'est pas dans les cartons. C'est peut-être plus dans les cartons, c'est peut-être le français ou la sélection des mots qui aurait dû être meilleure. Ce n'est plus dans les cartons?
Ben en fait, c'est exact. C'est qu'en 2018, il y a un plan qui était sorti qui s'appelait le plan de la valorisation de la profession enseignante, plan qui avait été présenté par Jean-François Roberge là, avant l'élection de la CAQ en 2018. Évidemment, bon, il y a eu l'aspect COVID, mais entre-temps, on avait nié à la CAQ la pénurie possible d'enseignants, et c'est en 2020, là, de mémoire, que Jean-François Roberge a fini par admettre que son plus grand défi, ça allait être la pénurie. Fait qu'on est, ça a pris 2 ans à réagir. Puis évidemment, quand dans un contexte de pénurie, Bernard Drainville arrive, ben, de réglementer la profession, de dire ça prend un titre officiel, de mettre de l'ordre là-dedans, ça devient soudainement moins intéressant. T'sais, ça me fait toujours sourire là, quand on parle de nivellement par le bas ou de concurrence pour que le système s'améliore. T'sais, tu vois que tout d'un coup, la fin justifie les moyens. Là, ben ouais, on a une pénurie, il faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Puis là, ben, il s'est mis les pieds dans la bouche quelques fois, là, dont la fois qu'il a dit que ça prenait un adulte devant la classe qu'on allait être content. Mm-hmm. Fait que tu sais, quand ta vision d'éducation, c'est d'avoir un adulte devant la classe, ça se peut que tu ne sois plus tout à fait d'accord avec l'idée première de ton parti d'avoir un autre professionnel.
Merci beaucoup, Sylvain Dancause. On se reparlera des maternelles 4 ans parce qu'on a raté la cible aussi. Ça s'est passé dans l'actualité aujourd'hui.
Mais c'est une bonne nouvelle, Pascal.
Qu'on a raté la cible parce que là, on dit que l'ouverture des classes de maternelles 4 ans, parce que là, le nombre de groupes pour l'année en cours est inférieur à l'objectif fixé. C'est pas nécessairement quelque chose de gagné. Toi, tu dis, hey, ça, c'est une bonne nouvelle?
Ben, c'est parce qu'on avait des objectifs qui étaient complètement farfelus. Moi, j'avais écrit là-dessus en 2018 avec l'ex-DGA de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Puis ce qu'on avait dit, puis on avait fait un clin d'œil à François Legault, tu sais, en prendre moins, mais en prendre soin, parce qu'on trouvait que c'était un délire, le nombre qui était avancé par la CAQ. Donc, on peut-tu y aller un peu plus mollo, d'asseoir les bases solides, puis de former notre personnel convenablement pour aider ces jeunes-là de 4 ans? Puis là, ben, je pense qu'on se rend compte qu'on avait peut-être exagéré, là, puis c'est bien correct de ralentir le tempo, là. Moi, je vois pas de problème avec ça, là. là, assoyons des bases solides, formons notre personnel comme il faut, puis occupons-nous de nos enfants de 4 ans comme il faut.
Merci beaucoup, Sylvain. J'ai entendu la cloche, pour ça je te laissais partir. Je sais que tu as un cours dans 3 minutes maintenant. Tes élèves t'attendent. On
Mes
se reparle.
Mes élèves m'attendent. Mon cours de maths va commencer dans 5 minutes environ.
Tu me donnes le goût. J'ai tellement le goût d'aller apprendre des maths. Là. ça m'attire. Non,
ouais,
pas vrai.
On pourra en parler à un moment donné, là, le lien affectif et les mathématiques, là, l'effet de l'affectif sur les mathématiques.
Il y en a qui ont tellement aimé ça. OK, on pourra en reparler. Mais c'est ça. Moi, c'était pas ma tasse de thé, comme on dit. Salut, Sylvain.
Ben, salut, ça m'a fait plaisir, Pascal.
Et pourtant, je peux te surprendre que j'avais gagné des concours en mathématiques. C'est juste que ça s'est fini quand même assez rapidement. On en
reparlera jamais. Mathématiquement, je te souhaite un bon 30e anniversaire. fait que, là, tu vois, le 30 étant un chiffre intéressant.
Oui, super. Merci beaucoup, Sylvain. À la prochaine.
Bye, Pascal. Bonne journée.
Sylvain Dancos, enseignant au secondaire à l'École de la Curvelouise et aussi chroniqueur. Fait lire cette lettre ouverte qui a été écrite, bien sûr, par plusieurs enseignants. On demande un ordre professionnel pour la profession, pour essayer de réglementer le tout, puis aussi de permettre que les pommes pourries sortent du système malgré leur formation, puis s'assurer qu'il y a des gens formés devant vos enfants pour les éduquer, justement, pour leur apprendre des choses comme les mathématiques. On revient dans un instant. Vous êtes dans l'heure CV Bob Bissonnette. Ouais, avec le soleil, ça va bien se prendre. Levez un peu le son. Chantal Maccabée à Boulevard 102.
L'heure CV.
Quand je réfléchis, j'ai 6 cerveaux, en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.
Quelques petites annonces importantes à faire. La première, avec ma voix enrouée, je vais vous accompagner jusqu'à 14h. Je vous explique, Yannick Marceau, je viens de savoir qu'il ne sera pas là pour l'émission du midi. Nathan Meilleur sera avec nous, donc l'émission sera meilleure. Et Tom Gauthier sera. Yannick, un petit imprévu là, familial, il n'y a rien de grave. Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de grave, mais il ne pourra pas être avec nous. Rôle de père oblige. Donc, on va continuer l'émission ensemble jusqu'à 14h. J'ai hâte d'avoir le plan de l'émission. Ça va être extraordinaire. C'est un très beau lundi, honnêtement. On fait des blagues, mais j'avais hâte de revoir Yannick, ça c'est certain, après le week-end. Sauf qu'on va le retrouver dès demain, mardi. Notre ami Yannick Marceau, qui va prendre un petit break, là, ou une fin de semaine de 3 jours, disons-le, comme ça. Mais pas parce qu'il se la coule douce, parce que justement, c'est un papa, puis comme tout le monde, des fois, ben, on a à être à la maison quand les enfants filent moins. Sinon, je vous avais promis une surprise. Bon. La surprise, je ne peux pas vous la donner tout de suite. La surprise, je ne peux pas vous le dire exactement c'est quoi tout de suite. Parce qu'on va faire une grosse annonce demain matin à Boulevard 102.1. Vous allez devoir être là dans l'heure de 7 à 8, OK? Grosse annonce à faire pour les prochaines 24 heures. On veut vous faire attendre, OK, mais pas trop. Alors, on a de quoi à vous mettre sous la dent d'ici là, d'ici l'annonce. J'ai un indice pour vous de ce qu'on va vous annoncer demain avec Denis Gravel dans sa chronique dans Rage Against le matin. J'ai un petit indice qui est sonore. Bien sûr, on est à la radio. Je veux les plus perspicaces de la place, puis même si vous ne l'êtes pas, je veux que vous essayiez au 88-971-1021 ou sur Twitch de deviner ce qui vous attend comme annonce demain. Je vous fais entendre tout de suite l'indice sonore.
Vaughn.
You mean Rick Vaughn?
Yeah.
Oh my God, it's him. Crank it, Jerry.
Qu'est-ce qu'on vous annonce demain à Boulevard 102.1 dans la chronique de Denis Gravel, dans l'émission de Rage Against le matin? Essayez de deviner ça. Encore, Pascal, fais-le passer encore. Encore, Pascal, fais-le passer encore. OK.
Give me Vaughn!
You mean Rick Vaughn?
Yeah.
Oh my God, it's him. Crank it, Jerry!
Oh, est-ce que vous avez commencé à comprendre ce qu'on va annoncer demain dans l'heure de 7 à 8? beaucoup de textos déjà. Continuez. D'un coup, ça vous donne des chances. Vous savez pas, vous autres, hein? Faites juste nous écouter. C'est aussi simple que ça. On vous accompagne, on est là. Et manquez pas le troisième indice. Ça va être présenté dans le show de Marceau le midi. Donc, tantôt, autour, là... entre midi et 13h, OK? Donc, c'est moi, Nathan Meilleur et Tom Gauthier qui vont vous présenter le prochain extrait avec le prochain indice. Puis on en profite pour saluer notre partenaire dans ce qui sera annoncé demain, Variété 2020. Ça, c'est quand même donner un indice, mais pas trop d'indices en même temps. J'adore voir vos textos entrer. Allez-y. D'un coup, que ça vous donne une chance de quelque chose de 418-971-1021. Manquez pas le prochain indice entre midi et 13h dans Marceau le midi, sans Marceau, parce que je vous rappelle qu'il ne sera pas avec nous ce midi. Il va très bien. Il était en feu. Il était là. Il sera là à 18h. Assurément avec Marc Bellemare pour nous présenter Marceau le soir. Le X, c'est qu'il doit s'absenter ce midi pour aller s'occuper de son fils. Donc, on reste au micro avec vous. Soyez là en grand, grand, grand nombre, s'il vous plaît. Là, on va avoir besoin de vous. Là. Il nous manque déjà un joueur, puis il y en a un qui frappe en relève, puis c'est le meilleur, c'est Nathan Meilleur. Sarah Dufour, qui était de passage dans nos studios la semaine dernière avec Denis. Plusieurs disaient « Get a room » à Denis et Sarah. Bon, on le sait qu'ils s'aiment beaucoup les deux. Elle sera aussi en tournée du côté de la chaîne. On l'avait reçue à l'émission. Puis aujourd'hui, ben, on l'a en musique. Sarah Dufour avec « Je m'en vais dans le bois ». Restez là, on revient dans un instant dans Marceau le midi, mais sans Marceau.